Alléluia. Merci Seigneur. Alors le thème de cette dernière étape, c'est une continuité. En fait, on va reprendre notre inventaire. On va retravailler sur notre inventaire. L'inventaire, c'est ce que nous avons fait dans l'étape 4. On a fait l'inventaire dans l'étape 4 où on a revu notre vie depuis qu'on était enfant. Et on l'a revu à la lumière des Écritures. Donc, on a poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous en sommes aperçus. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant sur ce qui nous est arrivé et sur la manière d'appréhender les choses à venir. Et donc maintenant, on va avoir une attitude différente quand les choses vont arriver devant nous. Maintenant que vous êtes arrivé à cette dernière étape, il vous faut continuer à faire tout ce que vous avez si bien fait jusqu'à présent pour votre rétablissement. Être honnête, avoir confiance, surveiller vos actions et vos réactions et planifier la suite de votre démarche. Évidemment, on va le voir, toutes ces dernières étapes qu'on a vues là, hein, les listes que l'on a dressées, des gens qui nous ont blessés, des gens que nous avons blessés, c'est possible que ces listes-là, eh ben, ils ne sont pas encore finis. Il y a encore besoin de les parfaire. Ensuite, la démarche de réparation, la démarche de restitution, la démarche pour faire la paix, ça aussi, ça peut être en cours. C'est évident. Tout se ne règle pas à un rythme que nous avançons dans l'étude. Toutes les semaines, on ne peut pas faire tout ce qu'il y a à faire. Hein. Mais au moins, le chemin est balisé. Le chemin est préparé. Et vous savez, vous avez ce travail-là à faire parce que le but, hein, c'est qu'il n'y ait plus de squelette dans le placard. Hein, on nettoie notre vie intérieure, on nettoie notre âme, hein, et on ne veut plus qu'il y ait de cadavres dans notre âme. Donc on a commencé le grand nettoyage, hein, et une fois que ce grand nettoyage est fait, ben après on va voir que c'est de l'entretien, un petit peu à l'image d'une maison. Hein, si vous n'avez pas fait le ménage pendant 6 mois, ben là il faut faire un grand nettoyage, hein, et après, eh ben, c'est un entretien à faire. Maintenir les acquis constitue le principal défi de cette dernière étape. On a acquis des choses et maintenant, on ne veut plus les perdre. Cette étape inaugure la dernière phase de ce grand processus vers la restauration de votre vie. Elle s'inscrit dans le prolongement des 2 étapes précédentes. Vos défauts, vos dysfonctionnements sont des ennemis subtils qui ne cherchent qu'à s'immiscer de nouveau dans votre vie et dans vos relations. En substance, vous devez persister et continuer à mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Essentiellement, cette étape fait appel à l'entretien de votre être intérieur et par conséquent de votre vie. C'est un peu comme l'entretien de votre maison. Avec une prise de conscience quotidienne, vous vous prouverez à vous-même que vous êtes capable de gérer vos paroles, de gérer vos actions et de gérer vos réactions, et que vous n'êtes plus menotté à vos anciennes habitudes et à vos défauts de caractère. Vous serez capable de réfléchir avant de parler ou d'agir, et ainsi d'anticiper les réactions probables des gens autour de vous. Au bout du compte, le travail de la 10e étape devient un rempart contre tout ce qu'on pourrait appeler le ressentiment, l'apitoiement sur soi, la honte, la culpabilité et la peur. Toutes ces émotions qui viennent nous rendre la vie aussi difficile et qui mettent dans nos relations autant d'obstacles à conserver des bonnes relations. Apprendre chaque jour à repérer, à admettre et à corriger ses erreurs est l'essence même de la formation du caractère. La tentation de se reposer sur le travail déjà accompli doit être évitée, si vous voulez que persiste votre paix et votre sérénité. Alors, nous avons poursuivi notre inventaire personnel. Comme nous l'avons compris à la 4e étape, l'inventaire personnel constitue un examen de soi honnête et sincère. Donc, on va voir 3 types d'inventaire qu'il est souhaitable de faire, c'est des habitudes de vie, c'est comme on pourrait dire une hygiène de vie spirituelle. Il y a d'abord l'inventaire ponctuel. C'est un inventaire qui peut être réalisé à tout moment de la journée si nécessaire. Il consiste à évaluer votre comportement et votre attitude. C'est-à-dire qu'on est dans un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder toujours à l'autre, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, eh bien, en fait, on va regarder à notre réaction à nous. C'est comme ça que petit à petit, on va grandir. C'est en regardant à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas changer les autres. Vous l'avez compris, ça. On ne peut pas changer les autres. Donc, si on ne peut pas changer les autres, il n'y a que nous qui pouvons changer. Donc, le travail pour parfaire notre croissance spirituelle, eh ben, c'est de regarder à nos réactions quand il se passe quelque chose d'un petit peu compliqué avec quelqu'un. De prendre du recul, de faire un petit peu cet inventaire pour voir comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait et comment ça se fait que j'ai été encore en difficulté face à ce qu'on m'a dit. Donc c'est important en fait de réaliser que ce sont dans la difficulté, c'est dans la difficulté qu'on va pouvoir mettre à la lumière ce qui se cache encore en nous. Vous comprenez ? C'est difficile pour nous de faire émerger nos émotions et surtout d'interpréter nos émotions. Par contre, quand on est dans la difficulté, c'est-à-dire quand on sent que on a reçu une petite flèche, là, c'est important de comprendre le moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Ça, c'est venu me chercher. Vous comprenez ? Parce que c'est une grille de lecture pour nous. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, il aurait reçu la même parole, si ça se trouve, ça n'y aurait rien fait du tout. Mais pour nous, ça a fait quelque chose. Donc, il y a un message derrière cette difficulté. Et c'est beaucoup plus intéressant et profitable pour notre croissance personnelle de regarder à ce qui a déclenché ce mal-être en moi, cette réaction en moi, plutôt que d'incriminer l'autre en face. C'est beaucoup plus profitable. Et c'est comme ça que dans cet inventaire-là, régulièrement, on va dire « Ah, Seigneur, je croyais que c'était guéri, mais apparemment, si je suis honnête avec moi-même, c'est peut-être pas tout à fait guéri. » Et donc, on va pouvoir prier pour les choses qui ne sont pas encore guéries et lâcher prise sur certaines choses qu'on croyait avoir lâchées et que finalement, on n'a pas lâchées. Le besoin d'un inventaire ponctuel se fait sentir lorsque vous remarquez que vous êtes perturbé émotionnellement ou que votre comportement est mal adapté aux diverses situations qui se présentent à vous, c'est une occasion de revoir vos réactions, d'identifier vos erreurs et de prendre rapidement des mesures correctrices afin d'éviter l'accumulation d'émotions négatives. Le but, toujours la même chose. Il ne faut pas perdre de but le vu. Hein, vous avez compris ? Il ne faut pas perdre de vue le but final. Le but final, c'est de rester dans une paix et de rester dans une sérénité. Est-ce que c'est facile ? Non. On est tous des êtres humains ici, ça va ? OK, donc c'est non. Est-ce que c'est impossible ? Non, non plus. Des fois, on va rater le coche. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber toujours dans le piège que nous tend l'ennemi, qui veut, lui, sabrer, il veut saper nos relations les uns avec les autres. Donc, il utilise toutes sortes de stratégies. Et en fait, nous, on veut démasquer tout ça de façon à ce qu'on ne soit plus sensible à certains pièges qui vont se traduire dans des conversations, des reproches, des choses qu'on nous dit, des petites choses qui apparaissent un petit peu anodines, mais en fait qui reflètent qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est un petit peu l'image, je pourrais vous le donner pour que vous compreniez bien. C'est un peu si j'ai une plaie ici qui est ouverte, et puis j'appuie dessus. Vous croyez que ça va me faire du bien ? Je vais faire « Wouah !» Donc ça veut dire qu'il y a encore un problème. Donc, quand ça se passe mal avec quelqu'un, bien sûr qu'elle a aussi ses torts, c'est évident. Mais ce n'est pas tant ce qui m'intéresse, puisque moi, ce que je veux, c'est apprendre à rester dans la paix. Donc, en fait, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Où est-ce qu'elle a, elle a appuyé où pour me faire mal comme ça? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'une fois que je vais avoir trouvé l'endroit exact où elle m'a fait mal, je vais demander à Dieu de bien guérir tout ça. Et que la prochaine fois, quand ça va appuyer, mais ça ne fera plus rien, parce que c'est guéri. Vous voyez? Et tout ça, c'est un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. Hein? Donc c'est toutes ces choses-là qui, petit à petit, vont faire que la restauration prend forme et on évolue. Alors évidemment, chacun évolue à son rythme et puis aussi suivant la gravité de la blessure. Hein, on comprend bien que si j'ai eu mon bras arraché et puis si j'ai une petite coupure, ça ne va pas être la même convalescence, on est bien d'accord. Hein. Mais tout ça, au final, eh ben, on arrive à guérir de toutes les choses qu'on a traversées, pas facile. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure à Colline, ce qu'on ne veut pas, c'est que notre passé détermine notre présent et notre avenir. Hein? En fait, nous voulons être des hommes et des femmes libres. Libres de nos chaînes. Bon, je chante mal, donc je ne vais pas faire plus loin. Un inventaire quotidien. Donc là, on a vu l'inventaire ponctuel. Jamais tu te fous de moi ou quoi? On a vu l'inventaire ponctuel. Ah, c'est genre... D'accord, ok. L'inventaire ponctuel, donc, on le note. On le note pour ne pas l'oublier, parce qu'après, on ne s'en souvient plus, parce qu'on est dans des émotions, et les émotions, c'est une question de seconde. Hein. Donc, on le note dans un petit coin. Parce que des fois, on est au travail, ou quelquefois, on est occupé, on n'a pas le temps de dire « Attendez, bougez pas, il faut que j'aille méditer sur ce qui m'est arrivé. » On n'a pas le loisir de faire ça. Donc, il faut le noter dans un coin pour y revenir peut-être ce soir à la maison. Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. Vous êtes bien, d'accord? Et puis, il se passe quelque chose, hein, coup de téléphone, tout ça. Puis après, vous êtes triste. Et tout d'un coup, vous avez oublié que le coup de téléphone était important, en fait. Puis quelqu'un vous voit, puis il dit, mais tu as l'air triste. Dit, non, 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 ça va. Comme on n'aime pas dire qu'on est triste, on dit, non, 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 ça va, ça va, ça va. Et puis, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, mais en fait, on réalise pas que le coup de téléphone qu'on a reçu, il nous a fait plus mal qu'on ne le croit. C'est venu nous chercher. Mais on a fait un espèce de déni. Vous savez, nous, on est des oraux. Donc, non, non, tout va bien, pas de problème. Puis, en fait, ça nous a fait mal. Donc, c'est important de déterminer, mais pourquoi elle a dit ça à ce moment-là? Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être la dévalorisation, ça peut être... plein d'accusations, de quelque chose qui fait que je me sens mal et tout ça. Vous savez, tant qu'on n'est pas libéré du regard des êtres humains sur nous, on est esclave des êtres humains. Ça, je pense que vous l'avez compris au cours de ces 2 mois et demi, parce que je le dis plusieurs fois, tant qu'on est esclave du regard de ce que les êtres humains pensent de nous, eh ben, nous sommes des êtres en esclavage. Est-ce que je dois dire qu'il n'y a que le regard de Jésus qui peut importer sur nous, qui a une importance. Parce que lui, il a un regard juste. Mais les êtres humains, même si c'est notre papa, même si c'est notre maman, même si c'est les gens les plus importants qu'on a connus dans notre vie, ils ne peuvent pas avoir un regard aussi objectif que celui du Seigneur. Amen. Problème, c'est pour nous, c'est de nous détacher de cette réalité-là. C'est d'accepter que ce n'est pas grave ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas grave ce qu'il a dit. Ce n'est pas grave. Il a dit, peut-être dans un moment d'énervement, peut-être, mais en fait, il ne le pensait pas vraiment. En fait, il peut se passer plein de choses. Mais en tout cas, le principe de base, c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que les autres vous disent et qui pourrait vous, encore quelque part, vous définir. Hein? C'est une erreur grave. Il faut ne pas connaître comment fonctionne l'être humain avec l'histoire du péché pour penser qu'un être humain puisse déterminer qui vous êtes, définir qui vous êtes. Maintenant, un inventaire quotidien. La révision quotidienne implique une réflexion approfondie sur les événements de la journée. Celle-ci constitue un travail de maintenance et d'entretien qui peut se faire à partir de moments personnels où vous vous appliquerez à la lecture, à la prière et à la méditation. Là, c'est un moment que vous pouvez prendre avec le Seigneur et où vous pouvez faire un petit bilan de la journée, de voir tout ce qui s'est passé, revoir en revue, et puis parler avec Dieu pour voir si Seigneur, si vous avez été dans la volonté de Dieu, si vous avez tout fait pour être des artisans de paix, si vous avez fait ce qui était votre possible pour maintenir la paix. Vous voyez, des choses pour juste progresser et puis être bien avec le Seigneur, tout simplement, d'être en harmonie avec lui, même si c'est pour lui dire, ben, Seigneur, tu vois, je n'ai pas été parfait aujourd'hui, mais c'était quand même une journée pas mal, quand même. C'était pas mal. Merci, Seigneur, pour la belle journée. C'est une complicité qu'on développe avec le Seigneur. L'inventaire quotidien peut être fait à différents moments. Vous pouvez choisir de passer en revue tôt le matin ce qui s'est produit la veille, afin de mieux vous préparer pour la journée. Certains préfèrent faire le point en fin de journée, en révisant les différents événements qui ont pris place. Enfin, d'autres choisissent de s'y appliquer matin et soir. C'est au cours de cette révision quotidienne que vous découvrez si, oui ou non, un tort a été causé à quelqu'un et si certaines excuses ou réparations sont nécessaires. L'inventaire quotidien vous donnera l'occasion de réfléchir à vos interactions avec les gens et d'examiner la façon dont vous vous êtes comporté. Donc, vous comprenez bien qu'on arrive à la fin de ces 10 étapes et qu'en réalité, nous avons été transformés. Okay ? Alors, je sais que dans la réalité, ça peut prendre plus de temps. Mais normalement, on a été transformés et donc nous ne voyons plus les choses de la même façon. Ça, on ne peut le comprendre qu'en partant du fait que le but est toujours de sauvegarder les relations. Je ne vais pas refaire tout l'historique du vase restauré, mais le vase restauré, c'est Jésus qui dit au docteur de la loi, il répond au docteur de la loi, quand le docteur de la loi lui dit « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et on a vu que la vie éternelle qui est à ce moment-là, ce n'est pas la vie après la mort, c'est la vie qui commence dès qu'on appartient à Jésus. C'est une puissance de vie, c'est Zoé, et c'est la vie de Dieu qui vient en toi et qui vient te donner cette puissance de vie que le péché avait anéanti. Donc cette puissance de vie, elle vient en toi. Et la réponse de Jésus au docteur de la loi, il répond, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. De là, on a vu que l'importance pour Jésus, parce qu'il lui a dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Vivra, on retrouve Zoé. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas vivre pour vivre, c'est vivre de la plénitude de la vie. C'est-à-dire avec toutes les promesses de Dieu qui se réalisent dans ta vie, avec une vie en abondance, pas une vie sans difficulté, mais une vie où tu marches avec le Seigneur et où ta vie ne dépend pas des circonstances. Et c'est toi, avec le Seigneur, qui dirige ta vie. Ce n'est plus les circonstances qui font que tu deviens un baromètre et aujourd'hui tu es en forme parce que tout va bien dans ta vie et que demain tu es au plus bas parce que ça va mal dans ta vie. Non, il y a un équilibre qui se fait dans ta vie et tu sais que Dieu est avec toi et que chaque jour qui passe est une journée extraordinaire. Amen. Amen. Et donc pour ça, Jésus lui a dit, fais ça et tu vivras. Donc fais ça, ça veut dire aime Dieu en premier, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, puisque là, c'est un renouvellement des pensées, c'est-à-dire qu'on ne pense plus de la même manière, on revoit la vie à la lumière des Écritures, et aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire un équilibre extraordinaire entre s'aimer soi et aimer l'autre. Un équilibre de bienveillance. Je suis bienveillant avec moi, et je suis bienveillant avec les autres. Et il y a un équilibre là-dedans. Donc c'est parfait. C'est qu'on a l'amour de Christ, on aime Dieu, et cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, elle vient irradier notre être, elle vient guérir notre être, et elle se diffuse au travers des autres. Merveilleux. S'infuser pour diffuser. Waouh! Alléluia. Et cette diffusion ne se fait pas à notre détriment. C'est un équilibre. Hein? Puisque le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne t'oublie pas. Il n'a pas dit « et aime ton prochain ». Aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut aussi prendre soin de soi. C'est pour ça qu'on a vu qu'il était important qu'on fasse la paix avec qui on est. Hein? Et j'oserais dire qu'on s'aime. Ces moments sont précieux pour avoir un temps intime avec Dieu. Vous entretenez ainsi cette soif de Dieu indispensable à la satisfaction de notre âme. Vous voyez, la relation avec Dieu, c'est une relation intime. Hein? C'est pas une religion que Dieu est venu apporter sur cette terre. Il y avait ce qu'il fallait en religion. S'il y avait une religion à apporter, il n'était pas obligé de venir, puisqu'il y avait toutes sortes de religions. Non, il est venu apporter une relation intime avec sa créature. Renouer. Parce que ce qui nous manque tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, c'est tout ce côté spirituel qui nous a créés, qui fait partie de notre ADN. On est avant tout des êtres spirituels, avant d'être des êtres matériels. On est avant tout des êtres spirituels, mais c'est cet être spirituel, c'est notre âme qui a besoin d'être alimentée. Il a besoin d'être alimenté par cette rencontre avec Dieu, par cette relation avec Dieu, par cet amour avec Dieu. On le voit quand la Samaritaine rencontre Jésus, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Elle boit l'eau de la vie. Elle reçoit cette vie de Dieu. Elle reçoit cet amour de Dieu. Et là, elle est complètement transformée. Elle qui avait honte, et ça représente une grande partie de nous, on avait honte pour X raisons, et donc elle était cachée. Et là, tout d'un coup, elle pose sa cruche, et là, elle n'a plus peur de voir les gens, elle va au village et elle évangélise, elle témoigne de l'amour de Dieu et elle n'a plus honte du regard des autres sur eux. Parce que ce qui compte maintenant, c'est que les gens sachent que Dieu est venu sur cette terre et que Dieu est venu pour nous guérir. Amen. C'est beau. Ensuite, un inventaire périodique constitue un travail plus approfondi. Il peut se faire mensuellement, à la moitié de l'année ou annuellement. Cet examen plus poussé vous permettra d'identifier les schémas négatifs, persistants et répétitifs qu'il y a dans votre vie. Donc là, c'est bon de garder le cahier de bord que vous avez normalement dû commencer et de le revisiter régulièrement et de continuer. Parce que vous allez peut-être aussi, en faisant un bilan annuel, ben, en revenant un petit peu sur toute l'année écoulée, ben, vous allez voir peut-être qu'il y a des choses qui ont tendance à se reproduire, qu'il y a des choses qui ont tendance à revenir. Et donc, de les analyser pour éviter, vous vous rappelez, de ce que j'avais appelé le déni. Hein? Éviter le déni, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on est aveugle à nous-mêmes. Et si on est aveugle à nous-mêmes, on ne pourra pas guérir. Parce que pour guérir, il faut reconnaître. Et demander à Dieu de nous guérir de ce qu'on a reconnu. Mais si on ne sait pas, parce qu'on ne le voit pas, on ne pourra pas guérir. Donc il faut qu'on ait absolument cette acuité visuelle, spirituelle, de dire, tiens, c'est marrant, j'ai toujours les mêmes réactions par rapport à ça, et j'ai toujours les mêmes difficultés par rapport à ça, et mon épouse me fait toujours les mêmes reproches par rapport à ça. Et analyser pour voir si c'est justifié, ou c'est à demander à Dieu si vraiment là il y a un vrai problème. Mais vous comprenez bien que pour ça, hein, on est dans cette volonté de croissance. On est dans cette volonté d'être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Hein? Il y a cette motivation d'avoir soif de Dieu et de dire, moi Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. Et c'est comme ça que petit à petit, on croit. Pour bien réussir votre inventaire périodique, vous pouvez choisir de vous retirer à l'écart dans un lieu propice à la méditation ou à la réflexion, comme un lieu proche de la nature, un centre de retraite, pourquoi pas. J'ai même mis, et pourquoi pas, un petit hôtel à Maurice. C'est extraordinaire. Ah, extraordinaire. Je vous le conseille. Bon, ma femme n'est pas toujours d'accord avec ça, mais... il faut que j'équilibre. Cet éloignement temporaire dans la solitude vous permettra de vous dégager du brouhaha de la société et de votre rythme quotidien afin de vous consacrer de nouveau à votre inventaire personnel, où vous vous concentrez sur ce qui se passe dans votre vie. En fait, si on peut réussir à créer une petite bulle spirituelle pendant quelques jours, une petite semaine, et se dire, voilà, c'est l'heure de faire le bilan, mais c'est extraordinaire. Mais il faut se couper. C'est pour ça que Maurice, c'est génial, parce qu'il n'y a plus rien là-bas. On se coupe de vous comme un roi. Vous n'avez rien à faire. Pas de course à faire, pas de bouffe à faire, rien du tout. Vous êtes comme un petit prince quand vous arrivez, tout le monde est à votre service. Et vous êtes coupé de tout. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de trucs. Et donc, on n'a que ça à s'occuper. Mais c'est un luxe extraordinaire. Amen. Et donc, c'est bon de faire ce petit bilan. Moi, à chaque fois, je kiffe ce voyage-là parce que je prends une semaine avec le Seigneur et avec ma femme. Alors, avec ma femme et avec le Seigneur. Et c'est extraordinaire. L'autre façon d'y parvenir est de tenir un journal personnel. Dans celui-ci, vous pouviez confesser vos luttes et vos peurs sans être jugé ou puni. Parfois, décrire une situation que vous vivez ou des relations qui vous ont affecté vous permet de mieux en saisir les enjeux et les effets. C'est pourquoi un journal est un outil intéressant à votre santé mentale et émotionnelle. Considérez votre temps d'écriture comme un temps de détente et de relaxation personnelle, comme une pause salutaire et bienfaitrice. Une autre manière de faire est d'avoir un référent spirituel. Vous vous rappelez, hein, on en a parlé à l'étape 5. Une personne de confiance avec qui on va partager régulièrement nos expériences de vie et les émotions qui s'y rattachent. Ça aussi, c'est très puissant d'avoir un rendez-vous régulier avec quelqu'un avec qui on a tissé un lien de confiance et qui va grandir au fur et à mesure. Et on peut tout se dire. On peut tout se dire. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur d'être trahi. Hein. On marche ensemble. Au fur et à mesure, on a vu que c'était sérieux et qu'on pouvait vraiment se faire confiance. Et ça va permettre de nous garder. Hein, ça va permettre vraiment d'avoir cette garde autour de nous avec la prière avec le frère ou la sœur. Alors, si vous êtes une sœur, j'encourage avec une sœur. Et si on est un frère, j'encourage avec un frère. Moi, je n'encourage pas frère et sœur. Hein, même si on me dit, mais si l'amitié, ça existe et tout ça, oui, je dis oui. Le problème, c'est que je connais trop bien la fenêtre de Johari et je ne fais pas confiance. Voilà. Après. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, le référent, c'est vraiment quelqu'un avec qui on va se lier d'amitié. Et donc, on peut enlever beaucoup de choses. Si on a encore des dysfonctionnements, si on a encore des tentations, si on a des choses qui nous arrivent encore, eh ben, d'avoir un référent et de pouvoir prier parce que cette semaine, j'ai eu une attaque et puis j'ai été tenté et puis voilà, et on le dit. Vous savez, ça, c'est puissant. Ouais, ça, c'est puissant. Parce que quand on est tout seul et que l'ennemi nous attaque, si on ne le dit à personne, et qu'au contraire, on a peur, on a honte, on ouvre des portes à l'ennemi. Bien sûr que le Seigneur est là pour nous protéger, mais j'ai vu beaucoup de gens tomber alors que c'était des gens enracinés en Dieu. Mais ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Et on peut minimiser aussi. Hein. On peut minimiser. C'est-à-dire que j'aime bien quand les gens disent « Tu ne crois pas qu'il y a un petit souci là ?» Non, je gère. Je gère. J'aime bien « je gère ». Et avec le diable, on ne gère pas du tout. Hein. Il faut faire gaffe. Quand la tentation est là, il ne faut pas rigoler. Il faut prendre ça au sérieux. Et quand on confesse à quelqu'un, quand on le dit à quelqu'un, on est beaucoup plus fort. Un compagnon d'œuvre, une personne de confiance avec qui on va partager régulièrement nos expériences de vie et les émotions qui s'y rattachent. La dixième étape vous incite donc à porter attention à vous-même. Vous apprenez ainsi à vous connaître davantage, mais aussi à reconnaître et à accepter vos défauts. La sagesse se développe par des habitudes régulières de réflexion et d'introspection. Vous voyez comment on grandit ? Comment on grandit et comment on gagne en sagesse, c'est parce que, à force de faire tous ces exercices-là, on finit par mettre en évidence nos faiblesses. Et on est tous d'accord que qui qu'on soit ici, on a tous des forces et des faiblesses. On a tous des dangers partout et on a tous des endroits où on est plus en danger que d'autres. Et à force de bien les mettre à jour comme ça, eh ben on sait par exemple que dans tel domaine, je dois faire attention. Dans tel domaine, je dois faire attention parce que je suis plus faible. Et de les mettre en évidence va pouvoir dire à Dieu, Seigneur, tu vois là, j'ai besoin de toi plus particulièrement parce que c'est un endroit où je suis plus sensible, où je suis plus faible. Donc on va mieux se connaître, mieux cibler les endroits. Donc en fait, c'est un peu comme dans une armée. Hein, si l'ennemi connaît votre faiblesse, eh ben c'est plus facile pour lui d'attaquer là où est votre faiblesse. Par contre, si vous, dans l'armée, vous savez où est votre faiblesse, eh ben vous allez pouvoir vous renforcer au niveau de cette faiblesse-là. De façon à ce que l'ennemi n'attaque pas où c'est faible. Et que vous soyez toujours battu parce que, finalement, vous n'avez pas mis à jour cette faiblesse-là. C'est de l'humilité, mais c'est aussi du bon sens de réaliser que le péché nous a tous attaqués d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'il a eu comme conséquence, c'est qu'il nous a affaiblis dans notre volonté, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et on n'a pas tous été touchés de la même manière. Vous voyez ? Mais bon, je vais prendre un cas extrême pour que vous compreniez bien. Si, par exemple, j'ai une... Alors, ça fait drôle de dire « j'ai ». Bon, si quelqu'un a, par exemple, une tendance pédophile, par exemple, vous voyez ? Eh bien, c'est compliqué en même temps. Mais il peut mettre à jour ça, de dire que, tiens, c'est bizarre parce que je suis attiré par les petites filles ou par les petits garçons et tout ça. Il peut dire ça. Mais ça, là, il faut pas qu'il reste seul face à cette tentation-là. Il peut pas dire « je gère ». Parce qu'un jour, l'ennemi va faire tout, va mettre la situation comme il faut pour qu'il tombe dedans et que la tentation soit tellement forte pour lui que, eh ben, il ne résiste pas. Vous comprenez ça ? Et malheureusement, il faut être lucide. Quand on regarde la fenêtre de Johari, on voit bien qu'il y a les endroits cachés. Et il y a des gens qui ont été touchés par des choses mais qui les rend complètement dysfonctionnels. Et surtout dans tout ce qui concerne la sexualité. C'est le domaine où il y a le plus de dysfonctionnement. C'est de moins en moins tabou, mais on peut dire que bon, c'est ce qui a fait longtemps le secret des familles. Puisque 90% des violeurs sont dans la famille. Proche. C'est tellement horrible qu'on n'ose pas en parler. Ça fait tellement peur. Et pourtant, c'est une réalité. C'est le péché. Et pourtant, cette personne-là, ce n'est pas marqué sur son visage. Et puis, si vous lui dites, tu fais confiance à ton oncle, ou tu fais confiance ? Eh bien, bien sûr. D'accord ? Et comment dire qu'il y a un problème ? Que vous sentez qu'il y a un problème ? C'est très délicat. Et pourtant, il y a eu combien de problèmes comme ça ? Oui. Moi, je connais une famille comme ça, là, ben, c'est pareil. La jeune fille aujourd'hui, elle a 20 ans aujourd'hui, la jeune fille. Mais bon, ça commence à aller un peu mieux. Mais elle a eu beaucoup de traumas qui ont pris naissance où ? Ben, à la suite d'une soirée d'anniversaire, à la maison, où ça a fini tard. Finalement, il y a des garçons qui sont restés à dormir à la maison. Et puis, dans sa chambre, il y avait un garçon. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ? Il y a eu attouchement sexuel. Et la fille, tellement qu'elle a eu honte, elle n'a rien dit. Mais seulement, elle a commencé à déconner à l'école, elle a commencé à se scarifier, elle a commencé à déprimer. Ouais. Tous les symptômes qui font que il y a eu un problème sexuel, il y a eu un problème d'attouchement. Et c'est un gamin. Vous voyez ? Donc il ne faut pas être naïf là-dessus. C'est qu'on est tous, on a tous été touchés d'une manière ou d'une autre. Alors, pas tous de la même façon et pas tous dans le domaine sexuel, mais bon, c'est un exemple pour dire que ben, la fenêtre de Johari, nous révèle qu'on a tous des problèmes. Donc, le vase restauré, c'est juste mettre à la lumière les endroits où nous avons été touchés pour les mettre en évidence et pour que Dieu vienne soigner tous ces moments-là, ces endroits-là, et que nous, on fasse notre part. Et notre part, ben, c'est de mettre en évidence nos vilaines manières de faire, nos vilaines manières d'agir, nos paroles qui ne sont pas encore à la gloire de Dieu, nos réactions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nos émotions, enfin, toutes les choses que le Seigneur explique quand il dit que ben, toutes ces choses-là, ils viennent de votre cœur, parce que votre cœur, ben, il a été sali. Il a été sali par le péché. Et que donc, toutes ces idées de jalousie, des idées de convoitise, toutes ces idées de critique, de jugement, de dévalorisation de l'autre, toutes ces choses qui font que les conflits naissent et que les conflits prennent des proportions incroyables, ben, tout ça, ça vient de nos cœurs. Et on a besoin de purifier nos cœurs, on a besoin de mettre tout ça à jour, et ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. Mais le but final, ben, c'est d'avoir un cœur, même si spirituellement notre cœur est purifié, que le Seigneur il a purifié notre cœur, ben, vous savez, les choses anciennes, ils sont en train de passer, et les choses nouvelles, ils sont en train d'arriver, même si pour Dieu, spirituellement, lui, il nous voit à travers de Jésus, et lui, il nous voit parfait. Mais tant qu'on est sur cette terre, malheureusement, on aura besoin de se battre et de composer avec le péché. Et en tout cas, de ce qu'il a fait en nous, ce qu'on appelle la vieille nature. Hein, ce qu'on appelle la vieille nature et qui essaye de revenir à la surface dès qu'il le peut. Ça va ? Ça va, vous êtes avec moi ? Ouais, ça va. N'oubliez pas que vos problèmes, quels qu'ils soient, ne sont que des symptômes de troubles plus profonds, comme vos émotions perturbées, votre impulsivité, votre susceptibilité, et j'ai mis trois petits points, parce que la liste peut être grande. Hein? Mais en tout cas, toutes ces choses-là qui arrivent là, eh ben, ce sont des obstacles à une bonne communication. Hein? Je vous allez voir tout à l'heure, je vais vous proposer au mois de juin, pour ceux qui veulent, d'approfondir les relations humaines, et vous allez voir que toutes ces choses-là, il y a une manière de parler à un être humain. Il y a une manière, une façon de s'adresser à un être humain. Et si on ne le sait pas, ben malheureusement, toutes ces choses-là, s'ils n'ont pas été soignées, les émotions, s'ils n'ont pas été soignées en nous, eh ben, ça va se traduire inconsciemment. On ne va même pas le voir. C'est juste peut-être quelqu'un à côté de vous qui va vous dire oh, « Dis donc, tu as été un peu dur. Waouh, wow, mais là, tu as été… » Et la personne dit « Ah bon, tu crois ?» Parce qu'en fait, elle n'en a même pas conscience. Parce qu'elle n'est pas guérie de ses émotions. Au fil des années, pour engourdir votre souffrance ou votre mal-être, vous vous êtes retrouvé à fuir dans toutes sortes de conduites, de dépendances, à réagir excessivement ou même à déclencher des conflits. Rappelez-vous, la souffrance est là pour vous enseigner quelque chose. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais la souffrance, si on la prend du bon côté, elle est bonne, la souffrance, parce qu'elle nous renseigne sur ce qui ne va pas encore en nous. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Vous n'êtes pas parti, là. Ne pas y porter attention ou la fuir ne vous aidera pas. Mais il y a plus encore, puisque tout processus de changement et de transformation se fait par la reconnaissance de vos façons malsaines de vous comporter et par l'adoption de nouvelles conduites plus constructives. Là, ce qu'il faut comprendre, pour accepter cette façon de faire, il faut comprendre que l'humilité, elle précède la gloire. Et la gloire, elle précède la chute. Vous voyez cette notion biblique ? En réalité, à partir du moment où on a compris que le péché nous a touchés et que j'ai forcément des problèmes. S'ils ont été résolus, tant mieux. S'ils ne sont pas résolus, il faut que je les mette à jour. Et ces problèmes-là, le fait d'avoir des problèmes ne vient pas nous discréditer, ne vient pas enlever de la valeur à ce qu'on est. C'est simplement de l'humilité pour regarder de près à ce qui se passe encore en nous. Vous voyez, il faut pas tout confondre. Notre valeur, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Et quand on est venu à lui, il nous a redonné toute notre valeur. Et vous pouvez prendre l'image du fils prodigue et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le fils prodigue, il a fait ce qu'on a fait tous au début. Hein? On a fait tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et à l'image du fils prodigue, à un moment donné, merci Seigneur, on est venu à Dieu. Comme le fils prodigue qui revient avec son père. Mais regardez bien, le fils prodigue, il a fait n'importe quoi. On est d'accord. Et beaucoup d'entre nous, on a fait n'importe quoi. Mais regardez, le fils prodigue nous redonne le père. Nous redonne tout. Nous redonne tout. Il nous redonne d'abord son amour, son attachement qui ne s'est jamais arrêté. Il l'a toujours aimé. Et la preuve, c'est que quand il le voit arriver là-bas au fond, eh ben, c'est lui qui court après son fils. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, c'est le père qui attend, comme ça. Puis le gars, il arrive tout penaud, quoi. Hein? Bon, ça, c'est l'image normale. Mais là, c'est pas du tout l'état d'esprit de Dieu. Dieu, il te dit, ça y est, enfin, il revient à la maison. Enfin, il rejoint leur royaume. Et il court nous accueillir. Déjà, il faut prendre conscience de ça. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu qui court après nous. Il nous cherche, Dieu. Il nous cherche. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le Père, il dit à ses ouvriers, mettez-lui la bague au doigt. Hein? C'est-à-dire la reconnaissance de qui il est. C'est comme le sceau. Hein? C'est comme un sceau. Et ça, c'est la valeur de la personne. Il leur donne toute la valeur. Il dit, regarde, j'ai le sceau de la maison. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils de mon père. Et comme nous sommes le fils et fille de notre père. Retrouve le sceau. Et puis enfin, il lui fait comprendre qu'avec lui, tu manqueras de rien. C'est-à-dire qu'il t'apporte la sécurité. Et là, il dit, apportez le veau gras. Waouh ! On ne peut pas mourir de faim avec un veau gras. On a tout ce qu'il faut. C'est comme si il nous pardonne tout de suite. Il ne fait aucun cas de ce qui est arrivé avant. Il voit ta repentance et là, il te dit, revêtez-lui de la plus belle robe. La robe blanche, la robe sans tache, la nouvelle vie qui commence, la nouvelle naissance qui commence. Waouh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Hein ? Mais c'est ça le Seigneur. Et donc, quand on est avec lui, ben, on n'a plus ce problème de honte, on n'a plus ce problème de garder ces défauts-là pour nous, parce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse des reproches, on ne veut pas qu'on nous dise des choses comme si que ça pouvait encore nous diminuer. Mais on ne peut pas être diminué. Et puis, cette valeur et tout ça, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des faits, des circonstances de cette vie. Elle ne vient pas de ce que les autres pensent de toi. On est sur le roc. Tu comprends? Mais c'est pour ça qu'on peut accepter de dire « Oui, je ne suis pas encore parfait ». Mais dire « je ne suis pas encore parfait » n'enlève rien à ma valeur. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est fondamental. En fait, ta valeur, ton attachement à Dieu et ta sécurité ne dépendent plus des hommes, ne dépendent plus des circonstances. Elles dépendent de ton amour et de ta relation avec Dieu. Normalement, c'était un grand « wow ». Mais bon, c'est pas grave. Les anciennes façons que vous aviez de réagir face aux gens, aux situations et même aux lieux sont appelées à être remplacées par de nouvelles façons d'agir. Le disciple de Jésus a compris que pour ressembler à son maître, il va travailler sur sa poutre. Vous comprenez l'allusion, hein ? On est dans la paille et la poutre. Avant, on marchait comme tous les êtres humains fonctionnent et on regardait. Nous, on pensait que celui qui était en face de nous, il avait un sacré problème. Nous, c'était rien à côté. Mais alors lui, hein, Seigneur, aie pitié de lui. Hein, parce que franchement, waouh. Hein. Et puis le Seigneur, il arrive et il dit, qu'est-ce que tu me dis là? Tu me dis, il faut que je pense à lui parce que c'est grave son problème. Je dis, mais... Et là, le Seigneur, il nous fout une claque. Il nous dit, mais arrête de regarder à la paille qui est dans l'œil de ton voisin et regarde plutôt à ta poutre. Alors là, on prend une claque. Là. On dit, Seigneur, où est ma poutre? Moi, c'est une paille que j'ai, moi. Je n'ai pas une poutre. Vous voyez? Donc, ça change tout. C'est-à-dire, arrête de regarder au défaut de l'autre. Parce que tant que tu regardes au défaut de l'autre, tu ne grandiras pas. Tu ne regarderas pas à ce qui se passe en toi. Et donc, tu ne changeras pas. Et cette vie médiocre que tu as, elle va continuer. La seule manière de changer de vie, d'avoir cette vie pleine de promesses, c'est changer ta façon de faire face aux gens, face aux situations. Il y a vraiment cette notion de transformation qui fait que sans la transformation, eh ben, on ne pourra pas arriver à ce que Dieu veut, le statut que Dieu voudrait qu'on arrive. Un statut où la vie n'est pas forcément facile, on a tous des problèmes, on a tous des ennuis, mais la manière de les prendre est complètement différente, ce qui fait que je reste dans la paix alors que avant je me serais énervé, alors qu'avant je me serais disputé. Mais on a changé. Maintenant on dit non, quelles que soient les relations, le type de relation qu'on a, alors rappelez-vous, il y en a un tout de suite, je le rappelais à chaque fois parce que je ne veux pas qu'on interprète mal ce que je dis. Je mets de côté les relations toxiques. Okay, je ne parle pas de ça. Ça pourra faire l'objet d'un autre enseignement. Je ne parle pas des relations toxiques. Je parle de relations normales, si ça existe, les relations normales. Je ne sais pas si ça existe, mais on va dire normales, entre parenthèses. Je parle de ces relations-là. Hein, les relations que nous avons, soit avec notre famille, soit avec nos enfants, notre mari, avec le mari et la femme, c'est un peu compliqué, parce que c'est compliqué de se fâcher, hein, parce que si on se fâche, on est mal barré quand même. Hein. Donc ça se remet toujours plus ou moins bien. Mais c'est toutes les relations qui nous environnent. Donc sauvegarder nos relations, ce que j'appelle soigner nos relations, fait partie de la qualité de vie que vous aurez. Alors, je le mets dans l'autre sens. La qualité de vie que vous aurez sur cette terre va dépendre de la manière dont vous considérez vos relations. Jeannette a rigolé. L'apôtre Paul insiste sur la conduite du croyant. Il met l'accent sur le fait que celui qui confesse Dieu ne se comporte plus comme ceux qui ne le connaissent pas et qui ont l'intelligence obscurcie et le cœur endurci. L'intelligence obscurcie illustre à la fois la difficulté de compréhension, le manque de connaissances et le jugement déficient. Et quant à la dureté, Paul utilise le mot grec porosis qui décrit une pierre plus dure que le marbre, un cœur endurci qui perd sa sensibilité. La restauration nous permet de libérer ce cœur endurci. Et la parole de Dieu là-dessus, elle a un verset qu'on connaît bien dans l'Apocalypse, c'est « Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Hein? » Le cœur, il est endurci par les épreuves de la vie, par les souffrances de la vie. Hein? Le cœur, c'est un cœur qui a été nourri avec de l'amertume. Et donc le cœur a fini petit à petit pas perdre sa sensibilité. Et on devient très, très agressif. On ne peut rien nous dire. On devient très susceptible. On ne supporte plus les réflexions. On ne supporte pas les reproches. Vous voyez, vous connaissez, ça vous parle?
Hein?
Hein? Ça parle à nous, évidemment, parce qu'on dit toujours « Ah oui, je vois à qui tu parles ». Non, non, on parle à nous. Et Dieu nous redonne ce cœur sensible. Paul voyait dans les églises des cœurs humains tellement transformés en cœurs de pierre que les gens ne se rendaient même pas compte qu'il péchait. Il a vu des gens tellement dominés par le mal que tout sens de la honte était perdu et que la décence était oubliée. Il a vu des hommes et des femmes tellement à la merci de leurs désirs qu'ils ne se souciaient pas de la vie de ceux qu'ils blessaient et de l'innocence de ceux qu'ils détruisaient, tant que ces désirs étaient satisfaits. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, des cœurs endurcis, des cœurs durs. La vie, les relations, le milieu environnant, la société même peuvent toujours nous affecter au point de nous infecter et de nous déformer. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être vigilants et de continuer notre transformation. Le vase restauré, c'est le début. C'est la pierre qu'on pose sur notre chemin et c'est le début de la transformation. Et après, on garde ces principes-là pour évoluer dans notre vie de tous les jours. Et les épreuves qu'on va rencontrer, parce que je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il y aura des épreuves dans notre vie, demain, après-demain, eh bien, c'est notre manière de les aborder qui va faire la différence. Tout est là. On peut vivre la même chose, on peut avoir la même épreuve, et on peut la vivre de deux manières différentes. Et dans les deux manières différentes, eh ben, il y aura des conséquences différentes. D'un côté, tu perds ta paix. D'un autre côté, tu gardes ta paix. D'un côté, tu trouves que c'est normal ce qui apparaît comme anormal. Un exemple. Pourquoi elle m'a fait ça? Mais pourquoi elle m'a trahi? C'est pas possible. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle me trahit là. Je me sens rejeté. C'est pas normal. Stop. C'est vrai. Dans le monde dans lequel on est, c'est pas normal. Dans le monde spirituel, ça peut arriver. Et donc, on va dire que ça fait partie des choses normales, puisque ben, les gens ont des cœurs endurcis. Donc, tu dois comprendre à ce moment-là que ce n'est pas tant toi qui étais visé par ça, mais c'est l'état de cœur de cette personne-là qui est affecté. Et tu en as fait les frais. Ça arrive. Maintenant, toi, ne tombe pas dans le piège. Ne te sens pas visé plus que ça par ces incompréhensions, par les choses qui... Tu ne pourras pas tout régler tout de suite parce que le cœur est endurci. Et donc, c'est juste de rester dans l'amour de Dieu pour cette personne-là que tu ne laisses pas l'ennemi profiter de cette déception pour rentrer dans la porte que tu pourrais lui ouvrir. Laisse la porte fermée, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Non, continue d'aimer. Continue d'aimer. Et tu verras que tu protégeras ton cœur et que la relation va se rétablir au bout d'un moment si toi, tu ne te fais pas piéger. Le problème, c'est quand les gens ne savent pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'attaque, la personne, c'est pas normal. Alors, si tu commences à dire c'est pas normal, je veux dire là, tu as déjà ouvert la porte. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver dans ton oreille, il va dire, c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal, t'as rien fait. C'est de l'injustice. Mais tu vas quand même pas te laisser faire. Hein? Quand même. Oui, les vieux réflexes qui reviennent. Et là, si tu fais pas gaffe, là, si tu prends le choix d'accepter le fait, ah, c'est pas normal, ah, ouais, c'est vrai, il faut que je fasse quelque chose quand même, c'est pas normal. Eh bien, la porte s'ouvre. Et le piège s'ouvre devant toi. Et c'est ce qu'on appelle l'offense. Là, tu prends l'offense. Et là, l'offense, c'est comme un piège à loup. Vous voyez, un piège à loup, ça fait ça, clac. Et puis, c'est plein de dents. Et qu'est-ce qui se passe? Tu mets ta jambe dedans, tu rentres, paf, le piège se referme et les dents rentrent dans ta peau. Et c'est le venin de l'amertume qui commence à se distiller en toi. Et là, tu vas être piégé. Parce que là, tu vas en vouloir. Et là, tu coupes la possibilité de revenir dans la relation. Parce que même toi, au fond de ton cœur, tu y en veux. Et c'est mal barré. Vous voyez le phénomène? Et ça, c'est le piège principal de Satan. C'est comment il crée les offenses et comment les êtres humains, et même nous les chrétiens, on n'est pas conscients de ça. Et qu'on se laisse avoir par l'ennemi. Parce qu'on n'est pas encore bien assis sur le Christ, que notre valeur, ce qui on est, n'est pas défini par ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, oui, c'est une anomalie, comme il y en a plein dans le monde, comme on en sera toujours victime, l'injustice sera toujours là, le rejet, il y en aura toujours, les trahisons, il y en aura toujours. Donc, je veux dire que tout ça, une fois qu'on le sait là, on ne doit plus être surpris par tout ça. On ne doit plus être surpris. On doit, au contraire, je veux bien comprendre qu'il y a un peu de déception parce qu'on est des êtres humains. Je peux le comprendre, ça. Mais attention, laisse pas l'émotion te gagner, laisse pas la déception prendre le dessus, parce que si tu laisses trop de temps à la déception, à un moment, l'émotion que tu vas prendre, elle va être trop puissante et tu ne pourras plus la gérer. Et dans ce moment-là, c'est la souffrance qui prend le dessus. Et quand la souffrance prend le dessus, tu ne gères plus. Tu as juste besoin d'un sentiment de vengeance, d'un sentiment de ruminer ça dans ton cœur. Tu vas le ruminer et le piège se referme parce que plus tu rumines, plus ça prend de la force. Plus ça prend de la force. Tu voudrais arrêter d'y penser, mais ça revient. Et tu sens, tu dis, trahi, injustice. Encore une fois de plus. C'est comme ça. Et l'ennemi, il est là. Il y en a qui ont déjà vécu ça, non? Ce processus de restauration assure votre croissance, mais aussi votre maturité psychologique, émotionnelle, spirituelle. Il n'est pas facile de grandir et de mûrir, et ce malgré nos meilleures intentions. Les inévitables résistances au changement demeurent à l'affût, prêtes à stopper toute progression. Vous avez vu pendant ces 10 étapes, c'est pas facile. Ça n'a pas toujours été facile. Et certains n'ont sans doute pas pu faire toutes les étapes. Il y a de la résistance au changement. Et pourtant, c'est pour nous, c'est pour être bien, c'est pour être libéré. Mais combien on a des résistances au fond de nous qui fait que même si c'est la parole de Dieu qui le dit, mais il y a des résistances pour nous empêcher d'y aller. C'est la réalité. Pour continuer le changement de votre mode de vie, l'inventaire personnel vous sera un atout inestimable pour vous aider à rester pleinement conscient et vous permettre de débusquer ces résistances et de les contrer. C'est un combat contre nous-mêmes. C'est ça le problème. C'est un combat contre nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'on est en guerre. On est en guerre contre le péché. Et on est en guerre avec nous-mêmes à cause du péché. Gardez à l'esprit qu'aucun changement en profondeur ne se fait sans travail. Ce qui est instantané est souvent bien passager. Pourquoi ? Parce que ça relève de l'émotion. C'est un coup émotionnel. C'est là, c'est « Oh, c'était bien !»« Oh, c'était génial !» Ouais. Mais si le travail ne se fait pas derrière, ça ne sert à rien. C'est un peu comme le médicament, tu as été le chercher à la pharmacie. Mais si tu le poses sur la table et que tu le regardes et puis tu ne le prends pas, il ne va pas faire trop d'effet. Le temps n'est pas votre ennemi. Vous ne pourrez pas rebâtir en un jour ce qui a été détruit sur des années. La différence, cependant, c'est que désormais, vous construisez sur des fondations nouvelles et saines. Ça va prendre du temps, mais si on a bien retenu tout ce qu'on a appris pendant ces 2 mois et demi, là, vous commencez à construire votre vie sur le roc, sur Jésus. Et là, c'est solide. Rien que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les caractéristiques du fils prodigue, c'est tout ce que nous avons reçu. Si vous arrivez simplement à imaginer que ce que vous êtes, ce qui vous définit, votre valeur, elle vient du fait que vous êtes une fille de Dieu et que vous êtes un fils de Dieu. C'est un statut. Et que ça ne dépend pas des circonstances qui vont arriver dans l'avenir, et que ça ne dépend pas de ce qu'un être humain pourra dire sur vous. Déjà, si vous avez compris ça, et si c'est votre narratif, c'est-à-dire quand vous avez un doute, eh bien, c'est ce que vous pensez. Vous dites, non, mais pas grave, moi, je sais qui je suis. Par la grâce de Dieu, disait Paul, par la grâce de Dieu, je sais qui je suis. Un enfant de Dieu. C'est un statut que personne ne peut nous enlever. Personne ne peut nous enlever ce statut-là. Jésus a dit, je t'ai gravé dans la paume de ma main. Il nous a connus avant la fondation du monde. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer ça rationnellement, parce que c'est impossible, on n'a pas le cerveau pour. Mais la réalité, c'est que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Tous nos jours sont inscrits dans son livre de vie. Tous nos jours sont inscrits. Il a la date de fin, il a la date de début, il a la date de fin. Il connaît toute notre vie. Oui. Et nous, on est des petits humains sur une terre et puis on s'agite. Tout est déjà prévu dans ses mains. Et nous, on s'agite. Pour pas grand-chose. Il a tout dans ses mains. Si on pouvait lui faire confiance. Vous êtes fondé sur le roc. Vous savez qui vous êtes accepté et aimé de Dieu. Amen. Vous êtes accepté et aimé de Dieu. C'est le plus important, c'est de savoir que nous sommes acceptés et aimés de Dieu. Waouh. Et à la suite de ça, on pourrait rajouter, grâce à ça, je peux aimer les êtres humains comme ils sont. Ben oui, parce qu'avant, ben, j'attendais, moi, d'être accepté et aimé des êtres humains. Eh oui. Oh, si quelqu'un pouvait m'accepter. Oh, comme je suis. Oh, si quelqu'un pouvait m'aimer comme je suis. Oh, ça pouvait arriver. Et on y a cru. Avant d'être déçu. Parce que tout le monde veut nous changer. C'est ça la réalité. On nous aime bien au début. Mais on veut nous changer. Le seul qui nous aime comme on est, c'est Dieu. Et les êtres humains, quand ils nous aiment, alléluia, gloire à Dieu. Prenons les petits poissons. Mais quand ça se passe mal, mais gloire à Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Je suis aimé de toi. Même si tout le monde m'abandonnait, lui, il me recueillerait. Et c'est avec lui qu'on va passer notre éternité. Pas oublier ça. La personne la plus importante. Elle nous aime et elle nous a acceptés. Nous avons promptement admis. La question de l'admission va devenir une réaction spontanée dans votre vie de tous les jours. Le fait d'admettre vos torts avec promptitude créera en vous, avec le temps, une discipline bénéfique et surtout une nouvelle façon de vivre. On ne se rend pas compte, mais en fait, on vit souvent avec ce que j'appelle le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est la manière dont on fonctionne depuis qu'on est petit. Et en réalité, on a pris des habitudes sans s'en rendre compte. Et quand on vient à Dieu et qu'on fait tout ce travail-là, hein, ben ce qui se passe, c'est qu'on débranche le pilote automatique. Et en réalité, on devient beaucoup plus sensible à ce qu'on dit, à ce que les autres disent, à la façon de considérer les gens. Ça devient plus sensible parce qu'on a débranché le pilote automatique. Mais faut-il comprendre qu'on a un pilote automatique. Le pilote automatique, il vient d'une part de notre hérédité. Ça, on n'a rien demandé, on l'a reçu. Ça, c'est ton cadeau. Et après, c'est aussi l'éducation dans laquelle nous avons évolué. Si tu as évolué dans une atmosphère un peu toxique, eh ben, c'est sûr que tu vas avoir pris des habitudes qui ne sont pas forcément les meilleures. Et dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de parler, dans ta façon de réagir, ben, sans doute que pour une partie, eh ben, c'est une manière automatique que tu as mis en place, mais tu ne t'en aperçois même pas. C'est automatique. Hein, c'est un peu comme passer les vitesses pour ceux qui ont une boîte manuelle. Bah, tu passes les vitesses, tu n'es pas en train de dire ah, je passe la deuxième là. Mais non, je passe la deuxième. C'est comme sortir à une bretelle, hein, à tel point que des fois tu sors et tu dis non, oh, mais non, aujourd'hui j'allais là-bas, pourquoi j'ai sorti là? Bah, par habitude. Hein? On fait plein de choses par habitude. D'accord? En mettant fin à toute cette stratégie d'évitement, de faux fuyant, et reconnaître que vous êtes fautif sur le champ, il n'y a plus de honte à se tromper ou à faire une erreur. C'est incroyable comment on prend les habitudes, les bonnes habitudes, à tout de suite dire « Oh, excuse-moi, je me suis trompé. Oh, » non, non, là, par contre, j'aurais pas dû te parler comme ça. Non, tout de suite, immédiatement. Autre chose, c'est pareil, vous décidez, vous priez pour ça, vous décidez de ne plus médire. Mais c'est quand vous faites le travail de prière, mais c'est incroyable comment le Saint-Esprit vous saisit au moment où vous allez dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. C'est incroyable. Parce que la médisance, c'est quelque chose qu'on a en nous. Parce qu'on a, on est basé sur le jugement. On est, toute notre vie, si vous la regardez, elle est basée sur des comparatifs, comparatifs des uns, des autres, comparatifs de performance, des comparatifs de jugement. Et donc, la critique de l'autre et la médisance, c'était une manière pour nous de contrebalancer. On se sent beaucoup plus fort quand on dit « Ah ouais, quand même, elle, c'est pas terrible quand même. Hein. » Je ne vais pas dire, mais moi, je ne veux pas critiquer. Hein. Alors franchement, c'est pas terrible. Hein. Ben, c'est le contrebalancement. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, non, quand même. Bon, bien, je ne suis pas parfait, mais quand même. Pas ça, quand même, non. Là, franchement, pendant ce temps-là, moi, je monte. Hein. Elle, je la descends. Donc, la médisance, elle fait partie de nous parce qu'on a été créé comme ça, on a évolué comme ça. Et en fait, c'est tellement devenu quelque chose d'automatique qu'il faut prier pour dire, pour plus de médire sur une personne. Médire, c'est plus subtil que critiquer. Parce que la critique, on sait ce que c'est de critiquer quelqu'un. Mais médire, vous savez ce que c'est? C'est subtil. Médire, c'est dire de quelqu'un quelque chose de vrai, mais qui la diminue. D'accord? C'est quelque chose que vous ne pourriez pas dire si la personne était là. Une fois, dans une voiture, il y a un pasteur qui était avec un frère. Non, c'est pas toi. Et le frère était en train de dire des choses sur la personne et c'était vraiment, c'était pas terrible pour l'autre. Et le frère lui a dit, passe-moi ton téléphone, on va l'appeler. Et l'autre a dit, non, mais je te disais ça comme ça. En fait, c'est des choses que tu peux pas dire, en fait, tu vois. Et en fait, c'est des habitudes parce que le truc, si tu veux, c'est qu'on va couvrir ça d'une excuse spirituelle. On va dire, je te dis ça, mais c'est pour prier pour elle. Ouais. Mais en attendant, tu dévoiles des choses qui la dévalorisent. Hein? Encore une fois, je ne parle pas d'abus sexuels, tout ça, hein? Enlevez ça de votre tête. Hein? S'il y a abus sexuel, oui, là, c'est plus de la médisance, hein? On est d'accord. Mais là, je vous parle en général. Ouais? Ben, la médisance, c'est pas facile. Et je vous le dis parce que moi, je l'ai testé. Quand j'ai commencé à prier pour ça, j'ai vu que c'était un combat. J'ai vu que c'était un combat. Parce que ce jour-là, je conduisais et j'avais deux personnes derrière moi. Et ce jour-là, il y avait un problème pour la route du littoral. On a été obligé de passer par la montagne. Je me suis tapé une heure de médisance. Et c'était compliqué. J'entendais les médisances. Et quand on me disait, hein, Bertrand, mais toi, t'en penses quoi? Moi, je pense à rien, moi, je conduis, moi. Tu sais, une heure par la montagne. Et c'était médisance sur médisance. Et le truc, il faut prier pour elle, hein, c'est tout. Donc, il n'y a plus de honte. Et c'est ça qui est chouette. Il n'y a plus de honte à se tromper ou à faire une erreur. On peut se reprendre rapidement, on peut s'excuser rapidement. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de peur. Je peux dire les choses. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas parfait sur cette terre-là. Je ne suis pas parfait. Et ce n'est pas grave que je ne sois pas parfait. Au contraire. Au contraire, quand je fais des erreurs, ben c'est là que je peux voir où m'améliorer. Si on ne fait pas d'erreur, imaginons, ça n'existe pas de toute façon, mais si on ne faisait pas d'erreur, ben on ne s'améliorerait jamais. Comment les athlètes progressent ? Ben en regardant les erreurs qu'ils ont faites. C'est aussi simple que ça. Mais pour nous, c'est la même chose. Sauf que nous, c'est spirituel. C'est qu'on comprend qu'on doit s'améliorer. Et bien pour ça, je fais des erreurs, mais j'accepte qu'on me le dise. Et en tout cas, je fais mon bilan pour dire, ah, ça Seigneur, tu vois, ah, c'est pas terrible ça. Hein, je n'ai pas été top là. Bon, pas grave. Il y a une journée qui s'appelle demain. On va pouvoir recommencer. Et je ne suis pas culpabilisé pour autant. Simplement que je regarde là où j'ai des mauvaises habitudes, là où les choses doivent changer. Vous comprenez ? On est dans une transformation active. L'évangile est vraiment au cœur de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient aux réunions ou quelque chose comme ça. C'est Dieu qui est en nous et qui travaille avec nous. Amen. Dès que nous en sommes aperçus, la dernière portion de cette étape décrit très bien le principe sur lequel se base notre nouvelle façon de vivre et de gérer nos relations. L'ouverture d'esprit. Il est étonnant de constater que ceux dont les vies sont le plus mal en point sont ceux qui font preuve d'une plus grande fermeture. Beaucoup de gens ont besoin d'être transformés, mais c'est ceux qui résistent le plus. Et puis, vous avez aussi ceux qui sont fermés à l'évangile, que leur vie n'a pas de sens, ils sont complètement coincés dans leur vie, ils auraient besoin de Christ, et bien c'est les plus réfractaires à Christ. Leur réticence à se remettre en question et leur entêtement malsain les empêchent de s'orienter vers des choix éclairés, vers une vie plus épanouie. Ils sont d'ailleurs très peu conciliants dans leurs relations. Souvent, ils sont très rigides, voire légalistes. Malgré les échecs et malgré les déboires, ils se cramponnent à leurs idées et à leurs convictions. Évidemment, ce qui se cache derrière cette attitude néfaste est bien souvent une honte dont ils n'ont pas pris conscience et qu'ils n'ont pas pu confesser pour en être délivrés. L'expression « dès que nous en sommes aperçus » fait préalablement appel à la capacité de percevoir nos actions et leur effet tant dans notre vie que dans celle des autres. C'est à cause de notre nouveau fondement en Christ que nous avons surmonté notre mauvaise estime de nous-mêmes. Celle-ci nous a amenés à avoir plus confiance en nous et nous n'avons plus peur, n'avons plus de honte ni de culpabilité à reconnaître nos torts. Cela ne remet plus en question qui nous sommes. Amen. C'est une clé essentielle. Si je suis bien fondé sur le roc, alors je n'ai pas de problème à reconnaître mes erreurs. Je n'ai pas de problème à reconnaître là où je dois encore m'améliorer. Cette nouvelle liberté nous amène à nous observer nous-mêmes dans nos agissements, tout comme dans nos relations, et à évaluer nos actions à la lumière de la parole de Dieu. Alors, nous nous arrêtons pour mieux observer, découvrir, mieux comprendre. Cette évaluation est possible grâce à cette ouverture d'esprit, conjuguée à un désir sincère de changement et à une reconnaissance de notre responsabilité. On prend nos responsabilités sur les failles, les lacunes qui sont encore en moi et qui sont en train d'être changées. L'inventaire personnel tel que décrit dans cette étape doit devenir un exercice naturel et faire partie d'une nouvelle façon de composer avec la vie et les défis qu'elle comporte. Bien entendu, il ne s'agit pas de ruminer ou de s'apitoyer sur soi ou de se morfondre dans le négatif, mais de s'arrêter régulièrement afin de faire le point et de repérer ce qui ne va pas, tant dans notre personne et notre vie personnelle que dans nos relations. On est plus dans l'ordre du défi personnel. Hein? C'est comme quand on veut s'améliorer dans quelque chose. Et bien là, c'est nous améliorer dans notre vie, c'est nous améliorer dans nos interactions les uns avec les autres. Qu'est-ce que je peux encore améliorer, Seigneur ? Pour être bien, parce que la finalité, c'est exprimer ce don pourquoi nous avons été créés. Hein? On a été créés pour aimer et être aimé, Si on est dans notre plan, si on est dans le plan parfait de Dieu, dans ce que Dieu veut, c'est-à-dire que nous soyons aimés et que nous aimions, eh bien, forcément qu'il ne pourra sortir de ça que du bonheur. On ne pourra être qu'heureux parce qu'on aura tapé dans le mille. On est en plein dans, ce que, dans la volonté de Dieu. Nous aimer les uns les autres. Merci Nelson. Mais il ne faut pas oublier également d'identifier nos réussites et nos victoires et de s'en réjouir parce que ce sont les fruits d'une vie transformée. Amen. Quand on a analysé quelque chose et puis on prie pour ça et on dit « Seigneur, waouh, ça je veux que ça disparaisse de ma vie », eh bien on voit le Seigneur qui agit en nous et on est content parce qu'on voit la réussite, on dit « Waouh, Seigneur, tu es grand ». Je me souviens quand je suis arrivé à l'église et alors, bon, moi j'étais, je venais d'un milieu populaire, on dit, populaire. Et dans le milieu populaire, on emploie des gros mots. Et à l'église, on n'emploie pas de gros mots. Mais seulement, j'avais un pilote automatique. Et donc, quand je suis arrivé à l'église, ben, je disais des gros mots. Et j'étais pas bien. Mais ça sortait sans que je le veuille. Et donc, j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, ça me fout la honte. Faut que tu enlèves ça de ma bouche. Et alors, miraculeusement, par la grâce de Dieu, quelques temps après, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus ces mots-là dans mes phrases. Ouh, alléluia. Des petites victoires comme ça et plein d'autres que vous, vous connaissez dans vos dysfonctionnements, que personne peut-être ne connaît, mais que vous allez avoir des petits défis comme ça à relever. Et quand vous allez voir la main de Dieu, alors déjà, ça renforce votre foi parce que vous dites, mais le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans ma vie. Et puis, c'est des victoires que vous gagnez et que des fois, ça va vous faire une grande joie. C'est un tout petit truc, mais ça vous fait tellement plaisir que vous rigolez. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oh, t'inquiète pas, c'est rien, je suis content. C'est une petite victoire à gagner sur nous-mêmes. Et c'est ça, une vie transformée. Nous sommes appelés à être en relation permanente avec Dieu. Hein? Ça, c'est une clé de la transformation, c'est une clé de notre vie en Christ. Nous sommes appelés à être en permanence avec lui. Il a fait... nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a fait sa demeure en nous. Donc, ce n'est pas je frappe à la porte, toc, 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 toc. Seigneur, ben c'est mardi, tu viens avec, on va à l'église. C'est mardi. Et donc, le mardi, j'ouvre la porte. Le jeudi, j'ouvre la porte. Et le dimanche, j'ouvre la porte. Puis, le reste de la semaine, je fais quoi? Quand je prie Non. En fait, il a fait sa demeure en nous et on vit avec lui. Il est en permanence avec nous. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment le verset qui nous explique qu'on ne fait plus qu'un. Bon, on va voir la prière sacerdotale. Mais déjà là, dans Jean 15, on a le cep et le serment. Et c'est l'arbre et puis ses branches. D'accord? Donc, nous sommes un avec lui toute la journée. Du matin au soir, nous sommes avec lui. Et toute sa puissance est en nous. La puissance de vie qu'il a, elle est en nous. Tout le fruit, parce que comme on est rattaché à lui, eh ben, on va faire la branche, ok? Et puis de la branche va sortir quoi? Le fruit, d'accord? Et le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui va sortir de nous quand nous restons attachés à Christ puisque nous faisons partie de lui? C'est l'amour. On est tous amour. Et oui, mais ce n'est pas bisounours du tout. Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'être amour que d'être méchant. Méchant, c'est facile. Le péché nous a programmés pour ça. Il nous a déformés pour être méchants. Donc, ce n'est pas la peine de faire des efforts pour être méchant. Hein. C'est simple. La méchanceté, elle est déjà en nous. Par contre, être amour, ça, c'est autre chose. Être amour, c'est vraiment une victoire sur nous-mêmes. Mais tant qu'on est en Christ, tant qu'on reste en lui, les fruits qu'on va produire, eh bien, c'est les fruits d'amour. Nous sommes attachés au cep. Notre contact permanent avec Dieu améliore notre intimité avec lui, avoir conscience Hein, avoir conscience que Dieu habite en moi et que moi et lui, on fait un. Ça améliore notre intimité avec lui, découvrant au fur et à mesure sa volonté à notre égard et lui demandant de nous donner la force d'exécuter sa volonté. Dieu désire se révéler à nous un peu plus chaque jour et notre part consiste à le chercher et à le connaître de tout notre cœur. Qu'est-ce qui va faire qu'on va ne pas perdre notre passion pour le Seigneur? C'est d'entretenir cette soif avec lui. Entretenir cette soif comme une biche qui soupire après des courants d'eau. De dire, c'est impossible maintenant que je passe une journée sans être avec le Seigneur. Impossible. Ce n'est plus moi. Hein? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand on est vrai, sincère, authentique, on a cette soif tous les jours de dire « Seigneur, il est hors de question que je sors de cette maison si tu n'es pas avec moi. Tu es avec moi pour la journée. » Et vous parlez à Dieu durant toute cette journée. C'est votre ami le plus fidèle. Vous lui parlez toute la journée. Dites-là, moi je vous ai déjà raconté ça. J'allais à mes rendez-vous de chantier et hop, dans la voiture, j'écoutais la louange, tac, Seigneur. Et puis là, hop, je savais que j'allais rencontrer des clients qui étaient un peu énervés, hein, on va dire, pour être gentil. D'accord ? Et puis j'arrivais, je dis, Seigneur, mais change leur cœur quand j'arrive, que je ne sois pas insulté et tout ça, comme des fois. Hein. Je dis, Seigneur, et donne-moi la maîtrise de moi, donne-moi la manière de parler à ces gens-là. Hop, et j'arrivais, et puis, je vais vous dire, c'était extraordinaire, parce que mais ça se passait bien. Mais je savais que je n'étais pas tout seul. Et puis quand il y avait un problème qui me semblait insoluble, parce que j'ai dit, aïe, 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 comment on va faire ça? Mais nous, les êtres humains, on est limités. Mais là, je priais, je dis, Seigneur, toi, tu as déjà la solution. La solution, elle est déjà pour ça. Et vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que le Seigneur a à voir avec un bâtiment? Mais le Seigneur, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'est pas limité, le Seigneur. Il n'est pas limité. Je vous raconte vite fait une anecdote. Parce que des fois, il y a des trucs incroyables qui nous arrivent. Il faut que vous compreniez que vous êtes en communion permanente avec le Seigneur, vous vivez une vie surnaturelle. Un soir, ça remonte. Hein. Je faisais avant d'être dans le bâtiment, j'étais dans l'annuaire réunionnais. Je faisais l'annuaire réunionnais. Et puis, j'étais dans une deadline. Une deadline, ça veut dire une date limite. Il fallait absolument que j'envoie les fichiers avant le lendemain matin. Et puis, il y a eu un bug informatique et ça n'arrivait plus à transformer d'un logiciel à un autre logiciel. Et si je n'avais pas ça, je ne pouvais pas sortir mon annuaire à l'écran. Et c'était un logiciel qui s'appelle 4D, qui est un logiciel informatique, mais c'est de la programmation. Vous savez, c'est des lettres, des chiffres, c'est un truc compliqué quand même. Hein. Et moi, je n'y connais rien. Et puis, le truc est apparu et il a dit « erreur, erreur ». Erreur, 11h du soir, erreur, l'horreur. Et là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur. Alors j'appuie sur le truc, pof, il m'envoie des lignes de texte. Des lignes de texte, un charabia pas possible. Et là, je sais qu'il y a une erreur quelque part, et je ne sais pas où. Et je dis Seigneur, toi tu sais, tu connais où est l'erreur exactement. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai appuyé au bon endroit. J'ai relancé le truc, et tout est reparti. Seigneur. Ouais, on s'attend au miracle avec le Seigneur. Mais pour des petites choses qu'on pourrait dire, non, mais ça, je ne veux pas demander au Seigneur. Arrêtez, demandez tout pour le Seigneur. Tout ce que vous avez besoin, il répond à tous nos besoins. Amen. Le psychiatre Gérard May a observé ceci. Après avoir écouté pendant 20 ans les aspirations du cœur des gens, je suis convaincu que les êtres humains ont un désir inné de Dieu. Ce désir est notre aspiration la plus profonde et notre trésor le plus précieux. Amen. Dieu a gravé en nous la notion de l'éternité. La prière est l'invention de Dieu, c'est le moyen par lequel il veut entrer en relation avec nous. Prier, c'est avant tout parler à Dieu, comme on parlerait à un ami. Peu de gens voient la prière comme une relation, Beaucoup de gens, parce qu'ils viennent de la tradition catholique, ils voient la prière comme rébarbative, comme ennuyeux. Et alors, pas du tout. La prière, c'est une relation. Elle est avant tout un dialogue avec Dieu. Nous lui parlons et nous lui exprimons nos besoins à chaque instant de notre vie. Lui nous écoute, nous parle et nous donne la façon de faire. Vous n'êtes plus jamais seul. Dieu habite en vous et vous lui parlez comme à un ami, comme à un être le plus précieux, et vous pouvez lui faire part de tous vos soucis, de vos tracas, de vos émotions, de tout ce qui n'est pas encore guéri. Mais c'est extraordinaire. Merci. Je ne suis pas tout seul. Natacha, j'allais dire. La véritable prière n'est donc pas une formule magique qui, répétée et redite continuellement, donnera plus de résultats. Ce n'est pas non plus un long monologue terne et endormant, mais une conversation permanente, vraie et intime entre Dieu et vous. Amen. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des temps de prière dans sa chambre où là, on fait vraiment que ça et on est concentré sur quelques sujets. Mais là, je vous parle d'une communion permanente avec le Seigneur. Il nous parle, nous l'écoutons, nous lui parlons, il écoute. C'est un processus à double sens, parler et écouter. La prière, c'est parler à Dieu et lui partager nos besoins, nos luttes, nos doutes. La méditation, c'est faire silence et écouter la réponse et les directives qu'il veut nous donner. La méditation, c'est important aussi. Une fois qu'on a prié à Dieu, qu'on a médité sa parole, on a lu sa parole, de rester en silence. C'est quelque chose que les êtres humains ne font presque plus. De ne pas avoir peur du silence. D'être dans son lieu secret, dans ce lieu privilégié, dans le lieu où on a l'habitude d'être en discussion avec Dieu. Et là, de s'arrêter, d'arrêter le téléphone, de tout arrêter. Il n'y a personne. Et là, c'est le silence. Il y a juste vous et Dieu. Qu'est-ce que c'est bon, ces moments-là? C'est des moments fortifiants. C'est des moments où on se ressource en lui. Et c'est bon, dans ce monde de fous, de prendre le temps de s'arrêter. Grâce à la méditation, nous apprivoisons le silence. Et nous calmons notre cœur et notre esprit afin de pouvoir être réceptifs. Pour certains, le silence, ça leur fait peur parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le silence. Mais qu'est-ce que c'est bon, dans la foi, de savoir qu'on est là et de parler à Dieu, dire « Seigneur, je sais que tu es là, je suis ton enfant, je viens dans tes bras. » Et là, c'est des moments où on peut être restauré, c'est des moments, ce que j'appelle des moments de refuge. Dieu, c'est notre refuge, notre haute retraite, c'est le refuge. C'est là, si tu as un moment où tu n'es pas bien, s'il y a un moment où il y a une émotion, viens te chercher parce que tu as entendu quelque chose, il s'est passé quelque chose, viens dans les bras de ton papa. Il t'attend. Il va te donner la paix. C'est extraordinaire. Nous pouvons ainsi profiter des quelques moments que nous avons de tranquillité pour nous ressourcer en lui, reprendre des forces ou tout simplement apprécier sa présence en nous et nous faire réaliser que nous ne sommes plus jamais seuls. Vous vous ennuyez ? Parlez-lui. Vous ressentez un vide ? Parlez-lui. Vous ressentez une tristesse ? Parlez-lui. Prière et méditation sont un style de vie qui se développe au quotidien. C'est une affaire de cœur et de volonté de vouloir faire qu'un avec lui. Avoir une communion avec Dieu, c'est aussi mettre à profit des moments où nous n'avons rien à faire. Et au lieu de trouver quoi faire pour combler ce temps, ce que j'appelle l'activisme, nous décidons de prendre ce temps pour se faire du bien, en se connectant avec lui plus intimement. On éteint le portable, vous verrez, c'est pas mortel. Et on fait silence, sans piquer du nez, parce que des fois on s'endort. Tenir un journal, comme nous l'avons vu, peut être très utile pour noter les pensées qui vous arrivent pendant ce temps intime avec lui. Vous serez étonné de découvrir l'efficacité de la prière. Restez simple, ne sombrez pas dans les prières compliquées. Ce n'est pas la formule qui compte, mais votre attitude de sincérité et d'honnêteté, comme un enfant avec son père ou sa mère. Dans un monde saturé de communication et d'information, il est indispensable de s'isoler et de méditer en silence. C'est dans les moments où vous vous abstiendrez de parler que dans le silence, vous entendrez la voix de Dieu. Dans la foi, vous apprécierez sa présence. Prier pour les autres est d'un grand bénéfice. Le piège à éviter dans la prière et la méditation est de devenir trop centré sur nous-mêmes. Nous avons fait une large part aux relations au fil de toutes ces étapes. D'une part, vous êtes appelé à prier pour les autres, mais aussi demander à d'autres personnes de prier pour vous. Développer la mentalité propre aux croyants, prier les uns pour les autres. C'est important d'avoir aussi cette vision élargie qu'on prie pour nous, mais aussi on prie les uns pour les autres. Et les autres prient pour nous. C'est une des raisons de l'Église. Hein? Nous sommes un corps et nous sommes des frères et sœurs. Et c'est ensemble que nous donnons du sens à tout ça. Ce n'est pas isolément chacun chez soi avec une prédication d'Internet. Ça ne suffit pas. Il nous faut cette connexion les uns les autres parce que nous sommes des êtres de relation. Donc c'est important de prier les uns pour les autres et que les autres prient pour nous aussi. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux, au moins deux, en relation les uns avec les autres. Notez une chose fondamentale, le plaisir de tout ce qu'on vient de dire, le plaisir est essentiel. Cherchez le plaisir. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion. Dans cette méditation, dans cette prière, dans ce que vous allez commencer par développer, il faut trouver du plaisir. C'est fondamental. Le plaisir est essentiel. Sans plaisir, vous finirez par exécuter une action religieuse. Mais en développant le plaisir, vous développerez une vraie relation avec lui, qui ne fera que grandir au point où vous ne pourrez plus vous passer de ces rendez-vous divins, mais aussi de cette connexion permanente avec lui. Améliorer notre contact conscient. Améliorer notre contact conscient constitue une expression pour décrire un niveau de relation avec Dieu qui dépasse des habitudes routinières. C'est une vie qui change. C'est une vie surnaturelle qui prend place. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier ou parce que nous ne voulons pas nous sentir coupables. Nous parlons à Dieu parce qu'il fait partie de nous. Nous parlons à Dieu parce que nous sommes en relation en continu avec lui. Nous cherchons ainsi à approfondir notre relation avec lui en prenant le temps de voir ses actions dans nos vies, en réalisant que nous ne sommes plus seuls et que nous sommes aimés définitivement. Rien ne nous séparera de son amour. Si vous avez le parler en langue, c'est l'occasion de parler en langue, c'est l'occasion de vous édifier, c'est l'occasion d'avoir ce contact constant avec le Seigneur. Conscient et constant avec le Seigneur. On se rapproche de plus en plus de lui en raison de la sérénité et de la paix que nous éprouvons en sa présence parce que notre âme se trouve abreuvée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il faut entretenir cette faim, il faut entretenir cette soif de Dieu. D'accord ? Il ne faut pas tomber dans le religieux. Il ne faut pas tomber dans la routine. Tous les jours, nous sommes en communion avec Dieu. Il y a une vie de l'Esprit en nous. Il y a sa vie en nous. Et tous les jours, ça nous fait grandir dans cette communion avec lui. Et qu'est-ce qu'on est bien dans cette communion avec lui. Et tous les jours, on lui dit, Seigneur, je veux encore plus de toi. Seigneur, je ne veux jamais me lasser de ce que tu as fait pour moi, de ce salut que tu m'as donné. Vous voyez, le narratif, vous nourrissez votre narratif avec les choses auxquelles vous croyez le plus profondément. Jésus a dit un jour, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et afin qu'eux aussi soient un en nous. Il fait le lien entre la vraie vie, la vie éternelle, la connaissance de Dieu et l'unité qui en découle. Oui. La vie éternelle, la vraie vie, c'est qu'il te connaisse et qu'il soit un avec nous. Oui, il y a cette unité d'esprit avec le Seigneur et quand on décortique ce mot connaître, là, c'est le même mot qui a été utilisé, qu'on utilise, et il connut. Et il connut sa femme. Et Adam connut Ève. Oui, c'est quelque chose d'intimement très lié. Par la foi, nous entrons dans une relation vitale avec Dieu. Nous recevons une nouvelle naissance, une nouvelle puissance. Nous rentrons ainsi dans notre destinée, dans le projet de Dieu pour nous, et on peut exprimer tout notre plein potentiel. Tout le potentiel que Dieu a mis en nous et qui était bloqué par l'effet du péché. Petit à petit, tout ça se met à jour. Les freins, les obstacles, petit à petit s'effacent. Et alors, on rentre dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. S'il y avait une mauvaise estime de nous-mêmes et un manque de confiance en nous qui nous a fait louper peut-être des opportunités, qui peut-être nous a fait gâcher des choses, là, à nouveau, Dieu conduit notre vie. Et les choses, petit à petit, se mettent en route. Et là, il y a des opportunités qui se créent. Vous êtes libre. Et là, tout est possible. Tout est possible. Vous n'êtes plus emprisonné. Tout est possible. Cette vie est possible, accessible par la foi et s'actualise par une connaissance approfondie de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre mentionne ceci, moi j'utilise souvent, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les pensées, parce que vous, le narratif que vous mettez dans votre tête, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence, c'est arrêter le pilote automatique. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de penser comme Dieu pense. Et qu'est-ce que je me raconte tous les jours dans mon langage intérieur? Quel est mon narratif? Qu'est-ce que je me dis? Il y a des choses qu'on ne dit plus. Il y a des choses que je disais, que je ne dis plus. Des choses où on ne se sentait pas capable, alors que le Seigneur nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Des choses d'inquiétude, où le Seigneur me dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. » Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que ce que je me dis est conforme à la parole de Dieu? On débranche le pilote automatique et on dit « Non, je ne dirai plus ça ». L'amour bannit la peur. La peur, ça ne fait pas partie de moi. Je dois chasser la peur. L'amour chasse au loin la peur. Plein de petites choses comme ça, on est transformé. Trois mots semblent caractériser ce que Dieu veut pour nous, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous apprenons par la prière et la méditation à discerner et à connaître ce que Dieu désire pour nous. Il peut y avoir une forte opposition qui se glisse subtilement entre nos désirs, nos aspirations et sa volonté à notre égard. Nous réagissons parfois un peu comme des enfants et doutons que sa volonté envers nous soit pour notre bien. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas sa volonté que nous rechutions dans nos dépendances ou que nous retombions dans nos vieilles habitudes nocives, destructrices. Par conséquent, agir d'une manière qui pourrait nous conduire à blesser les autres, à être désobligeant à leur égard, ou encore entretenir de la rancune ou du ressentiment, ne constitue pas une réponse à ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en paix avec tous les hommes. Enfin, lorsque nos prières restent sans réponse, nous ne devons pas en venir trop rapidement à la conclusion que Dieu s'oppose à nos désirs ou qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins. Dans ces moments, les doutes peuvent refaire surface et nous affecter au point de remettre en question tant notre relation avec Dieu que la nécessité de la prière. Si nos prières sont dans la volonté de Dieu, alors soyons confiants, réalisons que le processus est en cours et que Dieu a déjà exaucé notre prière et nous allons la voir exaucée. Il n'a jamais promis que la vie serait facile. Cependant, il nous assure d'une chose, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais, et qu'il donnera toute la sagesse nécessaire à ceux qui lui demandent avec foi. À travers cette restauration, nous sommes dans un vrai réveil spirituel, avec comme motivation de transmettre ce message à d'autres et de mettre ces principes du royaume de Dieu en pratique dans tous les domaines de notre vie. Allons de l'avant! Le passé est un lieu de référence, mais pas un lieu de résidence. Un lieu d'apprentissage, mais pas un milieu de vie. Le combat est souvent dans notre ressenti, dans nos émotions. Nos émotions nous ramènent souvent dans notre passé. C'est à nous de prendre la victoire en nous rappelant que le passé est passé et que nous sommes des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Nous pouvons encore être victimes des émotions. C'est petit à petit que les émotions vont disparaître en fonction de la restauration qui va se faire à l'intérieur de chacun de nous. Mais retenez bien une chose, les émotions, quand ils nous arrivent, ne sont pas obligés d'être consentis. Les émotions qu'on ressent, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. L'émotion, c'est quelque chose que l'on ressent. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Donc, ressentir n'est pas consentir. Amen. Rappelez-vous que le travail acharné que vous avez fait au travers de toutes ces étapes, vous a permis de vous éloigner du passé et de devenir différent de ce que vous étiez. Une nouvelle saison est arrivée. Donnez notre témoignage en proclamant ce que nous avons découvert, ce que nous avons appris et ce que nous avons affronté et surmené constitue un moyen puissant de transmettre le message de l'Évangile. Notre histoire devient ainsi un levier, un outil pour aider les autres. Cependant, cela nécessite une réelle transformation, une vie authentique dédiée à Christ, une vie de disciple. Vous inspirerez les autres par votre propre exemple et lorsqu'ils verront les changements dans votre vie, ils demanderont le moment venu « comment puis-je bénéficier, moi aussi, de cette vie-là » Choisir d'aimer pour vivre la paix dans nos relations est une décision qui se décide chaque jour par la grâce de Dieu. Le vase restauré est une réelle expérience de conversion et un vrai réveil spirituel. Il constitue davantage un changement intérieur qui s'opère par un long et tranquille processus de transformation dans une relation intime avec le Seigneur. En juin, si certains de vous veulent aller plus loin, je vous proposerai un petit enseignement sur 4 vendredis sur les bases bibliques des relations humaines, c'est-à-dire décortiquer comment se passent les relations humaines, parce que souvent on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché un conflit, qu'est-ce qui a fait que c'est parti en live. Et donc il est bon de connaître les bases bibliques des relations humaines, et en particulier comprendre ce verset, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » C'est fondamental dans les relations humaines. Comprendre l'amour agapé, aimer les autres comme Dieu nous aime. Et il y aura 4 thèmes. Le premier thème, ils sont tous liés. C'est-à-dire que si on veut être dans la volonté de Dieu, qui est de soigner nos relations, d'appréhender les relations les uns avec les autres, et comment appréhender les relations les uns avec les autres, eh bien, il y a 4 thèmes qui sont liés. D'abord, il faut bien comprendre notre nouvelle identité en Christ pour pouvoir aimer les autres comme ils sont. C'est-à-dire que la nouvelle identité en Christ, elle nous permet de reconstruire notre estime de nous-mêmes. Et donc, par là même, d'avoir une bonne confiance en nous. Donc ça, c'est important, en tant qu'être humain, d'avoir une bonne estime de soi et d'avoir une bonne confiance en nous. Et ça, c'est la base pour les relations humaines. Ensuite, un autre aspect de la relation humaine, apprendre à gérer nos attentes envers les autres. Il faut comprendre le phénomène des attentes dans les relations humaines, parce que souvent, elles sont un piège. Ensuite, troisième module, ce sera comment éviter l'offense pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ne pas être naïf sur les attaques verbales ou autres que l'on reçoit et l'influence que ça a dans notre réaction. Bien comprendre ça pour appréhender les offenses. Et enfin, comprendre la puissance de l'amour dans le pardon. Voilà, 4 modules qui constituent les bases bibliques des relations entre les êtres humains. Donc, je vous mettrai ça sur le vase restauré et je pense que ça sera début juin pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans les relations humaines. Et puis, pour ceux qui veulent éventuellement continuer l'apprentissage pour aider les autres, hein, donc il y a Denis Morissette qui propose, alors c'est un pasteur qui exerce depuis 40 ans maintenant, hein, il est psychothérapeute, il est pasteur, il est canadien, il habite à Longueuil et il propose des formations en ligne qui s'appellent SRA, hein, formationsra.com. Et là, vous avez plusieurs modules et qui permettent d'apprendre, alors déjà pour nous-mêmes et aussi pour comment aider les autres. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aller sur son site, découvrir son site. Et puis, il faut savoir aussi que toutes les semaines, il met des capsules de 10 minutes concernant les relations humaines. C'est toujours très instructif. Denis Morissette a été mon mentor pendant 5 ans pour que je puisse rentrer dans ce ministère de la relation d'aide. Ben voilà, ainsi se termine cette formation de 2 mois et demi. J'espère qu'elle vous aura été profitable. J'espère qu'elle va vous servir pour l'avenir. Moi, je n'en doute pas. J'espère que le travail a commencé à se faire.